Salut les marques, salut les smarts, bienvenue à Catch Up, je suis Ringside et vous écoutez le 22e épisode du podcast officiel des Cahiers du Catch. On va parler aujourd'hui du Monday Night Raw du 20 septembre 2016 qui se déroule à Memphis, Tennessee. Et pour m'accompagner cette semaine, le célèbre, l'aube du supplément, notre ami Giscal. Comment ça va, Giscal?
Ah, ça va très bien, Ringside. Merci de m'accueillir sur le podcast Rouge.
Oui, on avait besoin de toi. Hein, Hank est absent, il y a une crack house qui est ouverte dans son quartier. Il reviendra sûrement la semaine prochaine. Eh ben, on va pas tarder à commencer. Donc, ce Raw qui se déroule à Memphis, ça démarre avec l'arrivée tonitruante de Roman Reigns. Roman Reigns, le visage fermé. Il a été floué la semaine dernière. Il va demander des comptes. Il arrive au ring et il commence à parler, mais tout de suite, la musique de Stéphanie McMahon retentit. Il est coupé net et c'est Stéphanie qui débarque. Elle est là, elle lui explique qu'elle a un show à gérer, elle est contente qu'il soit là, mais il faut que le show démarre. Mais tout de suite, elle également, elle se fait couper. C'est la musique de Mick Foley qui retentit. Donc Mick Foley qui débarque dans le ring et qui explique que la semaine dernière, il a perdu le contrôle du show alors qu'il était le seul aux commandes, hein, puisque Stéphanie McMahon, elle était à Singapour
C'est ça.
pour une conférence. Alors, il nous explique que le main event a été gâché par deux interférences successives alors que lui, il avait clairement tapé du poing pour interdire toute intervention. C'était très très clair dans ses propos la semaine dernière. Il a décidé de punir les deux fouteurs de troubles. Donc ce soir, on aura un affrontement entre Rousseff et Seth Rollins, hein, les deux qui ont perturbé le main event la semaine dernière. Les deux vont s'affronter en un contre un. Alors Roman Reigns, lui, il trouve que tout ça c'est bien joli. Mais il demande qu'est-ce qu'il en retire, lui, hein, parce que lui, il a été floué deux fois la semaine dernière, hein, quand même. On lui a court-circuité son match deux fois de suite. Donc là, bah, les deux patrons du show, enfin c'est Mick Foley surtout qui lui explique que on est tous dans le même bateau, hein, dans cette histoire. Ils sont tous dans le même bateau. Ils jouent tous leur carrière dans la guerre des audiences, hein, qui les oppose à la SmackDown Live. Et donc Foley annonce que Roman Reigns aura droit ce soir à un match contre Kevin Owens, le champion de l'univers, l'Universal Champion. Bah là-dessus, qui c'est qui débarque? C'est le champion, Kevin Owens. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est une blague, Mick Foley? Qu'est-ce que c'est? Tu prépares ton stand-up là pour quand tu seras viré d'Euro et que tu te retrouveras sur le network? Alors dans la foulée, Steph elle annonce tout de suite que le titre ne sera pas en jeu du coup. Et c'est là que Foley ajoute tout de suite, ouais mais ce sera un steel cage match pardon, un match dans une cage. Et puis là bah direct il lance la suite du programme. Et puis c'est l'arrivée de Seth Rollins qui échange un regard avec Kevin Owens puis avec Roman Reigns aussi quand il arrive au ring. Parce que la suite du programme, évidemment, c'est l'affrontement entre Rousseff et Seth Rollins. D'ailleurs, après la coupure pub, hein, parce qu'on a une petite coupure pub, on se retrouve backstage dans les coulisses avec Rousseff qui vient avec invectiver Mick Foley. Il en profite pour caser une petite promo pour le film de Lana avec Edge dont le nom m'échappe.
Interrogation.
Interrogation, donc un film sur un interrogatoire.
C'est ça. C'est un huis clos.
Et donc, bah, Rousseff est très énervé et très insultant envers Mick Foley. Il dit que Mick Foley est jaloux de la famille de Rousseff parce que sa famille à Mick Foley, elle craint et puis que tout le monde se déteste dans la famille de Foley. Mais Mick Foley il se démonte pas. Il lui indique le chemin vers le ring. Il dit allez va, tu vas affronter Rollins, hein, t'es gentil. Et Rousseff, hein, il doit bien s'exécuter. Il hein, faut quand même qu'il aille catcher. Et puis pour terminer, Mick Foley reçoit un coup de téléphone. Il décroche et on apprend que c'est Chris Jericho. Donc ça n'arrête pas pour Mick Foley déjà.
Il est très occupé, hein.
Très très occupé ce soir. Qu'est-ce que t'as pensé toi pour le début de ce show-là?
Pour l'ouverture, bon, écoute, l'ouverture, c'était, j'ai trouvé un peu brouillon. Dans l'ensemble, bon, on a quand même l'objectif était rempli puisque le segment d'ouverture nous book deux matchs, hein, donc tu l'as dit. Rousseff contre Seth Rollins, donc pour les sanctionner en quelque sorte, et puis Reigns contre Owens dans la cage, donc deux décisions qui peuvent faire un peu polémique, parce que c'est vrai qu'on s'attendait à des conséquences peut-être un peu plus lourdes pour Seth Rollins et pour Rousseff, même si finalement on peut se dire que c'est pas non plus une excellente nouvelle pour les deux catcheurs, parce que c'est deux compétiteurs de très haut niveau, donc ils sont peut-être pas forcément ravis de se rencontrer à une semaine de Clash of Champions et de leurs matchs respectifs. Donc c'est vrai que de se rencontrer juste dans le Go Home Show, dans un match qui sera forcément brutal, parce que voilà, Rollins sait que Rousseff c'est une grosse brute, et Rousseff sait que Rollins c'est pas non plus n'importe qui dans le ring, donc ça reste une sanction, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être pu s'attendre à des conséquences par rapport à leur title match respectif ou des choses comme ça. Bon, ça n'a pas eu lieu, ils n'ont pas voulu bouleverser la carte, ce qui est plutôt logique. Et puis après, on a un Steel Cage match qui est ma foi plutôt excitant entre Roman Reigns et Owens en main event. Moi, ce que j'ai trouvé un peu flou et un peu brouillon, c'est la relation. Je sais pas si t'as ce sentiment-là, c'est la relation entre Mick Foley et Stephanie McMahon, qui au final, donc tu l'as dit, Mick Foley book un match, donc une sorte de rematch hein, entre Roman Reigns et Owens pour le titre ce soir. Tout de suite, Stéphanie lui dit, attends, 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 ce sera pas pour le titre. Et là, Foley en remet une couche. Bon, écoute, si c'est pas pour le titre, c'est le Steel Cage match. Donc c'est une sorte de, je sais pas si on essaye de dépeindre un peu Mick Foley comme un peu un GM incontrôlable qui est complètement désespéré et qui essaye de booker des trucs un peu dans tous les sens, un peu fantastique, parce que mine de rien, Stéphanie n'a pas tort dans sa réaction. Attends, on va peut-être pas faire des title shots toutes les semaines. Hein. On n'est pas en pay-per-view. On va se détendre. Et l'autre ne cesse de rajouter des choses. Donc j'ai l'impression qu'on essaye de raconter une petite histoire un petit peu entre les deux, mais c'est pas forcément très explicite à l'écran et ça peut rendre le booking un peu flou, je trouve. Donc j'ai trouvé ça un petit peu brouillon dans l'exécution, parce qu'on a l'impression qu'ils se contredisent, qu'ils se marchent un peu sur les pieds les uns les autres, mais bon, en même temps au final on arrive enfin le show suit son cours. Donc je sais pas, je suis un peu perplexe sur cette partie-là de l'écriture. Après sinon en soi l'ouverture fait son office, on a le show qui est lancé. Mais voilà,
C'est
moi
ça.
j'ai
Mais ouais, tu vois, je suis un peu à l'inverse de toi parce que je trouve que
ouais.
justement, ça se dessine un peu plus clairement cette relation entre Stephanie McMahon et Mick Foley, où on sent vraiment qu'il y a une scission qui commence à se faire très clairement, avec Stephanie qui protège ses intérêts et qui, tout doucement, ça se dessine que peut-être qu'elle était de mèche avec Triple H parce qu'elle essaye à tout prix de protéger Kevin Owens.
Oui.
Et derrière Foley qui lui il essaye de faire un général manager qui soit
C'est
fair
ça.
play, qui soit voilà
On le sent un peu
propre.
dépassé par les événements,
C'est ça. Et
mais je sais pas,
souvent
je
dépassé
ouais.
par ses promos aussi.
Oui, souvent un peu dépassé par ses promos en effet. Mais du coup, ça peut rendre ses décisions peut-être un peu illisibles ou un peu brouillonnes
Bah,
et bon, après ça va peut-être se
trouvais ça
décanter.
plus brouillon la semaine dernière, un peu plus clair cette semaine, ce qui fait que j'ai plus apprécié le show quand même cette semaine que la semaine dernière. Du moins au niveau du fil rouge
Oui.
de toute
OK.
cette histoire autour du titre universel. Alors, on va enchaîner sur le match hein, qui avait été annoncé, le match de punition Rousseff contre Rollins. Donc ça, c'est un match qui va être plutôt à l'avantage de Rollins au final, même si Rousseff il reste un monstre quand même très puissant, mais Rollins il arrive quand même à dérouler son catch hein, qui est à la fois technique aérien. Rousseff il réussit à diminuer l'ancien champion lorsqu'il l'écrase sur le poteau à l'extérieur du ring en début de match, après avoir évité un joli jumping high knee depuis le tablier du ring. Donc Rollins il va vendre tout le long du match hein, sa douleur au dos, mais c'est quand même lui qui fera les moves les plus impressionnants, avec notamment un springboard high knee qui touche sa cible et un impressionnant Falcon Arrow suplex sur Rousseff, c'est pas rien quand même. Mais ça reste très serré. Rousseff, ça reste un monstre implacable. Et au final, on n'arrive pas à les départager, pardon, parce que tout ça se termine par un double count out. double compte à l'extérieur, les deux adversaires ayant oublié que l'arbitre les comptait pendant qu'ils étaient en train de se foutre sur la gueule à l'extérieur. Et alors là, une fois que la cloche a sonné, les deux athlètes, ils vont aller inaugurer la table des commentateurs, hein, qui n'est plus ringside, hein, depuis la séparation des brands, hein,
Absolument, absolument. Ouais.
à l'entrée de la rampe. Et donc là, Rousseff va tenter de projeter Rollins en contrebas de la table, hein, la plateforme où se trouvent Michael Cole et ses amis. Mais il se fait contrer et c'est bien lui qui tombe en bas, hein, parce que Rollins finit par réussir à le pousser en bas et il va le terminer avec un crossbody depuis le haut de la table, hein, qui est assez impressionnant. Et ils avaient
Ouais.
un petit espace réduit pour faire leur cascade, ils ont réussi à le faire. Là-dessus, Rousseff ne se relève pas et c'est Rollins qui est bien triomphant mais en sale état quand même. Et il y a sa musique qui retentit. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé toi de ce match d'ouverture?
Écoute, match assez impressionnant, j'ai trouvé, entre les deux. C'est affiche inédite, sauf erreur de ma part. Je crois pas qu'ils aient fait de 1 contre 1 ensemble. Et en tout cas, moi,
Sûr.
d'un point de vue purement, voilà, de fan, ça m'a donné envie d'en voir peut-être plus à l'avenir si jamais leurs chemins se recroisent. Mais bon match. Ils s'en sont bien sortis, je trouve, parce que c'était une affiche assez casse-gueule, de faire affronter comme ça deux participants à deux matchs, de main event, dans un pay-per-view la semaine d'après. Aucun des deux ne doit perdre. Donc, au niveau du finish, c'était bien vu. Après, on pourra toujours reprocher aussi à la WWE de booker ce genre de match, parce que ça oblige quasiment ce genre de finish un peu en eau de boudin. Mais bon, en tout cas, ça a plutôt bien fonctionné de mon côté, parce que voilà, cette brawl un peu violente à l'extérieur du ring qui se finit par un spot super impressionnant. Sinon, un tout petit commentaire sur Rollins, j'ai trouvé qu'on avait commencé à entrevoir en tout cas ce que pourrait donner son catch en tant que face, parce qu'il penche de plus en plus vers le bon côté de la force, et il a, je trouve, ajouté quelques petites choses, plus de moves aériens. Il y a eu un sling blade aussi, je crois, qu'il n'avait pas l'habitude de faire pendant les matchs, qui était sympa. Donc voilà, des choses un peu plus impressionnantes et surtout beaucoup plus rapides. On l'a vu aussi en fin de match enchaîner les suicide dives, les moves de beaucoup plus rapides sans laisser de répit à son adversaire. Donc un catch plus face, plus aérien, qui était pas dégueu. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Donc dans l'ensemble, un bon segment. Ouais.
Et bah, il a un style de catch qui se marie bien au fait d'être babyface, hein.
Ouais, tout à fait. C'est
Rollins,
pour
mine
ça que
de rien.
je me rappelle à l'époque de la dissension, enfin à la dislocation du Shield, beaucoup de pronostics donnaient Seth Rollins comme étant le face naturel du groupe, et il s'avère qu'il avait pris tout le monde à contre-pied en étant le traître. Mais bon, bah voilà, la boucle est bouclée.
C'est ça. Voilà, bon, oui, bon, effectivement, un match solide entre les deux. Pas grand chose à redire. Et puis c'était sympa ce petit spot inaugural sur la table des
Oui.
commentateurs. Voilà, on commence le show avec du gros spectacle. Même si on sent qu'ils en ont gardé un peu sur la pédale
Oui,
au
clairement.
cas où ils
Ouais.
doivent se réaffronter d'ici pas longtemps. Mais voilà, match bien solide pour démarrer le show. Même s'il n'y avait pas d'enjeu, hein, certains diront. Mais bon.
Il n'y avait pas d'enjeu, si ce n'est que voilà, il faut gagner du momentum avant son match de pay-per-view.
C'est ça, exactement. Et puis, il y avait de grandes chances que Rollins se fasse démonter quand même. Mais
Oui.
visiblement, il est très costaud. Alors, chez les filles, hein, on enchaîne avec la division féminine. Alors, on se retrouve dans les coulisses, toujours avec Mick Foley, hein, qui est, comme on l'a dit, très occupé cette
Très
semaine.
très occupé.
Donc, et avec lui, il y a Dana et Charlotte qui sont là et elles regardent les vidéos de la semaine dernière et notamment le finish du match entre le triple threat, hein, qu'on a eu la semaine dernière entre Dana, Sasha Banks et Bayley. Et donc, elles visionnent le finish où on voit bien que Sasha Banks a également les épaules au sol quand elle fait son roll-up sur Bayley qui lui avait permis de gagner le match. Donc on en avait parlé la semaine dernière dans le podcast. On penchait pour un botch. Alors c'est pas vraiment impossible que ce soit vraiment un botch et qui
Oui.
d'une manière pragmatique ou
C'est
roublarde,
ça.
hein, suivant ce que vous en pensez. Ils en profitent un peu pour intégrer ça dans le scénario. Donc ben Dana et Charlotte elles disent c'est pas possible, il n'y a pas de gagnante en fait, donc il n'y a pas de challenger numéro un. Dana demande à ce que Bayley et Sasha Banks s'affrontent ce soir pour déterminer hein, qui sera le challenger numéro 1. Mais à la place, Mick Foley, il annonce un triple threat à Clash of Champions. Donc, on aura Charlotte, la championne, contre Sasha Banks et contre Bayley pour Clash of Champions. Donc une très belle affiche.
Oui, c'est une sacrée affiche.
Voilà, nous on est content, mais Charlotte, ça lui plaît pas du tout. Elle s'énerve très très beaucoup et elle pousse la pauvre Dana. Elle la pousse par terre. Voilà, encore une humiliation de Dana Brooke.
Ça.
Voilà, qu'est-ce que ça te fait dire cette petite.
Bon, écoute, ouais, sur le fameux botch, enfin bon, bah botch ou pas botch, je pense qu'on le saura jamais, mais bon, en tout cas, si c'était un botch, on était clairement dans une séquence un peu de damage control, comme ils disent, hein, les Américains, et à la limite, je trouve qu'à ce niveau-là, ils s'en sont pas trop mal sortis, que ce soit, si jamais c'était vraiment un botch, parce qu'en effet, on a tous vu qu'il y avait les épaules de Sasha Banks qui étaient au sol la semaine dernière, donc il me semblait logique d'adresser le problème cette semaine, que c'est plutôt bien fait. Moi, là où je suis déçu, j'ai pas grand-chose à dire sur la logique du segment en soi, parce que bon bah voilà, si Sasha et Bayley sont aussi vainqueurs l'une que l'autre, moi finalement, comme Bayley avait déjà battu Charlotte dans le passé, je peux comprendre la logique derrière Mick Foley de dire bon bah écoute, allez hop, c'est parti, triple threat. Moi là où je suis déçu, c'est d'un point de vue purement de la progression de la storyline, on va dire, parce que j'aurais préféré voir un triple threat plus tard. Je trouve que c'est dommage de le gâcher. Enfin, il sera pas gâché, ça. Je pense que ça va être un excellent match, mais de le donner aussitôt, parce que c'est quand même un triple threat de rêve, hein, pendant la division féminine. Là, je pense que ça va être un super match. Je l'aurais plutôt vu peut-être à Survivor Series ou dans un pay-per-view Interbrand plutôt que dans ce pay-per-view là, mais bon, c'est le seul grief que j'ai. Enfin, non, j'ai un autre grief, ce serait peut-être ce fil rouge avec Dana Brooke qui, moi, m'agace un petit peu, parce qu'ils mettent beaucoup le focus là-dessus, et au final, peut-être presque au détriment de la ceinture en elle-même, parce que ça prend beaucoup de place maintenant, chaque semaine, dans les émissions à Raw, je trouve ce teasing de rupture qui n'arrive jamais vraiment, ou qui arrive un petit peu, mais pas complètement, et on s'en fiche un petit peu. Enfin, moi, en tout cas, je m'en fous un petit peu, et je trouve que ça prend un peu trop le pas sur la storyline principale. Voilà,
Ouais, ça tire un peu en longueur, mais
ça tire
ça,
trop en
on
longueur, voilà.
sent qu'ils utilisent ça pour combler un peu du temps d'antenne,
Ouais.
parce que peut-être qu'au niveau de Sasha Banks, comme elle est pas phénoménale au micro,
Ah, ça, clairement,
ça
ouais.
fonctionne mieux avec Dana et Charlotte.
Peut-être.
D'ailleurs, on va rester chez les filles, on va enchaîner sur ce qui se passe après pour elles. Hein. On n'est pas chronologique, mais on va terminer avec la division féminine. Alors, on a justement un segment en coulisses avec Sasha Banks et Bayley. Bah, Bayley, voilà, c'est un peu à toi, à moi. C'est moi qui ai
Oui.
gagné, c'est toi qui as gagné. Bah, je suis content, on va se retrouver en triple threat, ça nous rappelle NXT. Voilà, mais bon, Sasha Banks, elle n'a pas l'air plus emballée que ça.
Non.
Elle explique que NXT, ouais, c'était la bonne époque, mais quand même, on était rivales. Et puis bon, voilà, elle dit ce soir, on fait une trêve, et puis parce qu'elles doivent affronter Dana et Charlotte. Donc elles font la trêve ce soir pour aller affronter la championne et son larbin en tag team match. Alors, ce match, en effet. Eh bien, c'est toujours un début de match qui est un peu au détriment de Dana Brooke, qui est humiliée. Elle tente à un moment donné de faire une interférence, mais elle vient au milieu des cordes, là, au milieu du ring, mais Bayley lui envoie Charlotte, qui elle se mange Charlotte dans les gencives en fait. Vindicative, elle rentre dans le ring, mais elle se fait rapidement éjecter par Bayley. Hein, donc vraiment, toutes ses tentatives ne donnent rien du tout. Il y a la coupure pub, et après donc on revient dans le match. Donc après c'est quand même clairement une domination de Charlotte et Dana tout du long. Elle cible notamment le dos de Sasha Banks, hein, qui
Ouais.
est elle est emballée, hein, elle a un pansement autour de, enfin je sais pas comment on appelle ça, hein, les
De
bandages,
bandage autour
voilà,
du voilà.
bandages plutôt, je sais comment on dit ça mais je l'avais oublié.
Ouais.
Donc voilà, on finit par avoir quand même un haut tag de Bayley qui a deux doigts de placer son belly to belly sur Charlotte. Mais elle est retenue par Dana Brooke qui lui accroche la jambe. Et le temps qu'elle invective Dana, Charlotte elle en profite, hein, elle profite de l'ouverture et elle va sécher Bayley avec un Bigfoot. Et elle fait le tomber pour le compte de 3. Donc compte de 3, victoire de Charlotte et de Dana Brooke. On sent un peu de tension entre Bayley et Sasha Banks à la fin du match. Et attention fiscale parce que je crois que tu respires dans le micro.
Ah, pardon.
Voilà, donc un match qui se termine donc sur la victoire de d'Anna et Charlotte. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match rapidement?
écoute, bien, j'ai pas grand-chose à dire sur ce match. Je trouve ça plutôt logique et bien exécuté. Bon, le match m'a pas transcendé, hein. C'est pas, j'ai pas été complètement ébahi par la performance des quatre, mais voilà. Sacha et Bayley étaient clairement en tension avec le petit segment que tu avais rappelé avant le match. Bayley joue vraiment le personnage de la jeune un peu rookie complètement émerveillée par ce qui se passe et tout ce qui lui arrive. Elle est absolument ravie d'être dans un triple threat. Sacha Banks est elle beaucoup plus sérieuse et voit plutôt d'un mauvais œil son inclusion. Donc tension pendant le match et du coup défaite un peu causée par du coup cette tension-là. Dans le même temps, elle, Charlotte, prend une victoire qui, à mon sens, est plutôt bienvenue après avoir perdu contre Bayley il y a quelques semaines et après avoir été plutôt en retrait, je trouve. Dans ses segments et toujours handicapé par Dana Brooke, je trouvais que c'était bienvenu qu'elle prenne cette victoire. Donc, dans l'ensemble, c'était plutôt bien exécuté. Après, bon, j'ai toujours le même grief, c'est toujours la place un peu prépondérante que prend finalement Dana Brooke dans cette histoire qui par exemple est 100% vouée à la cause de Charlotte et qui l'aide clairement à gagner alors que juste avant elle venait de se faire poussée comme une malpropre alors qu'elle pensait juste aider. Voilà, c'est toujours cette relation sadomasochiste là qui n'a pas beaucoup de sens, qui prend trop de place à mes yeux, mais voilà, sinon dans l'ensemble c'est quand même assez efficace et j'ai bien hâte de voir ce petit triple threat maintenant à Clash of Champions.
C'est ça, peuvent pas faire non plus toutes les semaines un match 4 étoiles. Maintenant, moi je suis contente des progrès de Dana Brooke qui commence quand même à être de plus en plus convaincante.
Je suis d'accord qu'il faut quand même souligner que c'est mieux.
Ouais. Pour le reste, de toute façon, moi je suis toujours client hein, de ces affrontements entre Bayley, Sacha, Charlotte, tout ça, c'est toujours très 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 joli à regarder. Alors bon. On va passer à la suite et je propose qu'on passe au Jobber's World.
Monde des jobbers.
Le monde des jobbers qui sera assez rapide cette semaine, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Braun Strowman bat Sin Cara pour la deuxième fois.
Ça.
Et Bo Dallas squash un certain Gary Graham. Lui chante d'abord un petit poème. La foule encourage le jobber. Hein. On a des chants Let's go jobber. Et on a des chants Dilette, hein,
oui.
La Dilation de la TNA, hein, de Broken Matardi. Voilà, du grand n'importe quoi. C'était pas super cool, super très intéressant. On va passer à la suite. Alors, on va parler du Best of Seven entre Cesaro et Sheamus.
Ah.
On est sur le sixième match. On est à 3 victoires à 2.
Pour
on a.
Sheamus.
Pour Sheamus, effectivement. Donc on a une interview de Sheamus hein, qui nous rappelle que la semaine dernière Cesaro a gagné par tricherie. Et donc après, bah, on a le match en lui-même, qui est un match très très violent, encore une fois,
Ouais.
avec des grosses grosses prises de Sheamus, toujours qui s'attaque au dos de Cesaro, mais Cesaro il se laisse pas faire non plus. Hein. Il y a pas mal de gros moves hein, de Cesaro, notamment encore des européens uppercut. Il en fait un en courant à l'extérieur du ring là, il
Ouais,
explose
magnifique.
Sheamus sur la barricade. Il y a aussi un moment donné, Sheamus il le soulève pour le crucifix là, au lieu de le faire atterrir devant lui, il le fait atterrir sur son genou, bien le dos directement sur le genou de Sheamus, mais ça se termine quand même par la victoire de Cesaro avec le neutralizer, hein, parce qu'il arrive à cueillir en fait Sheamus qui est à l'extérieur du ring, qui tente son coup de bélier à la volée là
Ouais,
contre
absolument.
qui se tient aux cordes et bah, effectivement évidemment Cesaro le chope avec l'European Uppercut et après il le place dans le neutralizer, le compte de 3, une victoire à nouveau de Cesaro, et donc qui revient à 3 à 3, la belle à Clash of Champions, encore un gros match hein, entre les deux.
Ouais.
Je suppose que ça t'a plu, toi.
Ah moi, enfin, j'ai vraiment adoré, encore une fois. Je pense qu'il faut rendre hommage aux deux, qui s'affrontent bah, maintenant, c'était la sixième, bientôt pour la septième fois, et qui continuent de trouver des innovations, des façons de nous surprendre, de nous ébahir par moments avec les moves. Voilà, le running European Uppercut de Cesaro était encore top. Le white, il y a un moment, Sheamus qui fait un white noise sur le tablier du ring, sur le
C'est
bord, qui est
ça.
absolument terrible, et qui est d'ailleurs le tournant du match vraiment. En termes d'intensité après derrière et de selling de Cesaro, c'est super. Le finish aussi, voilà, c'est bien vu. C'est la sixième fois qu'ils s'affrontent. Le coup de bélier par-dessus la troisième corde, maintenant Cesaro le connaît par cœur. Alors c'est dommage, sur le live, j'ai eu le sentiment que c'était un poil botché parce que j'avais l'impression qu'il voulait en fait lui mettre un uppercut pour le cueillir sur ce coup de bélier à la volée. Mais finalement, il l'attrape d'un coup et il fait un neutralizer un
C'était
peu
pas
en
très très
demi-teinte.
propre le
Ouais.
finish, effectivement, ouais.
C'était pas ultra propre, c'est dommage,
Mais l'idée est bonne.
et l'idée est excellente. Et voilà. Et moi, je trouve que c'est vraiment, enfin voilà, il faut rendre hommage parce que évidemment, c'est pas le point focal du show, c'est pas le must-see du show chaque semaine, mais ils sont sortis d'un traquenard annoncé, d'un accident industriel presque annoncé à l'avance de ces Best of Seven. Voilà, des matchs qui sont juste très très appréciables chaque semaine. Moi, l'histoire racontée me convient très bien. Évidemment que c'est prévisible. Bon, bah, il était mené 3-0, il remonte 3 partout, mais c'est l'histoire du babyface acculé qui remonte, qui gravit la montagne, qui lutte contre sa douleur, sa blessure pour surmonter le méchant. C'est bien. Voilà, ça marche bien, ils le font bien. Et personnellement, très très hâte de voir la septième parce que quand je vois ce qu'ils sont capables de faire en 10 minutes chaque semaine, je pense que le dernier match, ils sont capables de faire quelque chose de très très beau et ça va être vraiment très sympa à suivre. Donc voilà, encore une fois, c'était du bon boulot.
Ok, ouais, bah effectivement une belle réussite, hein. Moi je trouve ce Best of Seven, il y a eu que des très beaux matchs, et puis je pense qu'on aura encore un beau match à Clash of Champions, et puis voilà, encore cette semaine, il y avait encore des moves assez originaux,
Non.
des
Puis c'est marrant de
transitions.
voir l'évolution du catch de Cesaro qui finalement arrive à proposer autre chose parce avant sa feud contre Sheamus, c'était Cesaro, oui, c'est pound for pound, c'est le catcheur le plus puissant de la WWE, tous ses moves étaient basés sur la puissance, la prouesse physique. Et là, il est obligé de du coup d'évoluer vers un autre style parce que sa blessure au dos l'oblige. Enfin voilà, moi j'aime bien à chaque fois quand il vend le fait de, tu vois, on voit que ses prises de son arsenal habituel sont neutralisées une par une par cette blessure. Je trouve que c'est assez intéressant, c'est pas mal.
Et puis et Sheamus aussi en sort grandi, hein, parce que
Oui, je suis mieux sur.
même s'il perd, voilà, il se
C'est
posera
pas très grave, je pense,
toujours.
s'il perd ça.
C'est ça. Voilà, bah, on va enchaîner sur la suite. Alors, rapidement, hein, on va parler de Nia Jax et
Oui.
Alicia Fox. Donc on a une petite vidéo qui nous rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière, hein, où Nia Jax a détruit Alicia Fox. Elle a survécu Alicia Fox et il y aura une revanche à Clash of Champions dans le kick-off. Voilà, bah écoute, on va pouvoir voir Nia Jax dans un affrontement un peu plus long, sauf si elle détruit
Ou pas.
Alicia Fox en 3 minutes.
C'est pas sûr.
Ce n'est pas improbable.
Non.
Voilà, on va peut-être pas s'éterniser là-dessus, à moins que tu aies quelque chose à dire de
Non, non, non,
spécial.
je pas
On rigole.
spécialement hâte.
Alors, ben on va revenir un peu plus tôt dans le show et on va commencer à s'intéresser à la petite vie de Chris Jericho. Puisqu'on retrouve notamment Y2J et son meilleur ami Kevin Owens dans les vestiaires. Jericho, il explique que Mick Foley, en fait, il lui en veut personnellement, qu'il l'a jamais aimé et qu'il en profite, il passe par Kevin Owens pour l'atteindre depuis que ce dernier est champion. Bon, Kevin Owens, bon an mal an, il acquiesce, hein, oui, t'as sûrement raison. Et Y2J, énervé, il explique qu'il va faire une liste de tout ce qu'il n'aime pas chez Mick Foley. Et que quand Mick Foley verra la liste, he's not gonna like it. C'est ça. Et il s'en va et crie get out of my way. Et je suis pas sûr qu'il y avait quelqu'un sur son chemin,
Non, probablement pas, c'est peu
probablement
importe.
pas. Mais c'est pas grave. Chris Jericho toujours en roue libre. Et donc, bah après, c'est l'heure de la liste de Jericho un peu plus tard dans le show. Où on a d'abord Y2J qui fait face à Mick Foley dans les coulisses. Et donc là, clairement, il lui dit à Mick Foley, écoute, tu ne m'as jamais aimé. Et là, Mick Foley lui répond, c'est pas vrai. C'est moi qui t'ai recommandé à Paul Heyman à l'époque de la ICW. J'étais venu te voir dans tes petites fédérations. Donc effectivement, ça fait longtemps que je t'aime pas, mais on peut pas dire que je t'ai jamais aimé. Donc Y2J commence à énumérer ses griefs hein, qu'il a sur sa petite liste. Hein. Il a sa petite liste sur lui là.
List of Jericho.
The List of Jericho. Et donc le premier grief, c'est voilà, Mick Foley, il humilie les superstars, hein, comme il vient de le faire là, en se foutant de la gueule de Jericho. Mick Foley, ben, il dit, je t'entends pas, je comprends pas ce que tu me dis. Donc Y2J, il se répète. Nanana. Et bien Mick Foley il s'énerve, il dit je t'entends pas parce qu'il me manque une oreille, stupide idiote. Y2J il dit bah tiens bah ah, deuxième grief, il vole les catchphrases. Et puis il lui dit mais le pire pour Mick Foley c'est toi, c'est ton goût vestimentaire déplorable. Parce que c'est vrai qu'il est habillé un peu bizarrement hein, Mick Foley.
Oui, c'est très bizarre.
Et bon, Foley, il lui rappelle que lui, hein, Chris Jericho, il porte quand même un gilet sans chemise et avec une écharpe. Donc ça, il est un peu mal placé pour donner des conseils vestimentaires. Alors Y2J lui explique quand même que c'est la mode au Luxembourg. Hein.
C'est vraiment venu d'ailleurs, ça.
voilà. Donc c'est facile de se moquer, mais il est peut-être juste à l'avant-garde de la mode. Et ben Foley, il lui explique que peut-être que c'est la mode au Luxembourg, mais en tout cas il est ridicule. Ici, à Memphis, Tennessee, on se connaît. Y2J, ça lui plaît pas et il rajoute dans la liste. Hein, il utilise de la cheap pop de Babyface, volé avec des petites répliques faciles. Que maintenant c'en est trop, il est obligé de donner au monde The List of
Sa
Jericho.
liste.
Il va falloir que le monde soit au courant. Et donc du coup, on retrouve Jericho dans le ring un petit peu plus tard hein, après la coupure pub. Et donc il explique hein, au public présent qu'il a fait une liste. Et puis évidemment les gens crient what, des choses comme ça. Chris Jericho tout de suite il s'énerve, il dit bah tiens bah je vais je, toi là-bas avec les l'appareil dentaire, je te rajoute dans la liste. Toi aussi je te rajoute dans la liste. Il va rajouter tout le public dans la liste. Et là on a la musique de Enzo et Cass, la Team Soft qui retentit, les Soft qui arrivent. Donc comme d'habitude leur petite promo Enzo qui vient parler à Y2J bon il explique que quand même si Kevin Owens c'était ton meilleur ami il te laisserait pas venir habillé de la sorte sur le ring. Alors après ils sortent une liste de meilleurs amis du monde avec des exemples mais bon là je les ai plus. Il parle à un moment de bon il parle de Beavis et Butt-Head, ça j'ai retenu. Donc Y2J dit la plupart des gens dont vous parlez n'existent pas. Il parle de bon il mentionne aussi Ashton Kutcher à un moment donné. Donc Y2J leur dit bah vous croyez dans les années 90 ou quoi? Vous êtes là écoutez les Spice Girls, vous êtes des ringards. Bon ça va pas très loin, mais il y a les Shining Stars qui débarquent. Qui leur dit bah, dites donc vous êtes tous bien stressés.
C'est
Ce qu'il vous faudrait c'est un petit voyage à Puerto Rico. Ils essayent de revendre leur timeshare là, leur
Ouais, c'est
hôtel,
ça.
leur petite arnaque à la con. Ils sont aussi coupés par le New Day qui débarque, distribution de céréales dans le public. Xavier Woods qui fait sa petite pub pour son show sur YouTube Up Down Down. Et puis ils expliquent qu'ils viennent là, ils ont une très bonne raison de venir, c'est qu'ils n'ont rien de mieux à faire. Donc
Voilà.
ils font même plus d'efforts. Hein,
Aveu total d'impuissance.
voilà. Les gars, il fallait bien qu'on nous case à un moment donné dans la soirée. Mais bon, ils n'ont pas besoin de faire plus d'efforts, parce qu'il y a Anderson et Gallows qui débarquent aussi. Ils prennent un peu mon point de vue. Hein, ils disent donc tout ça est ridicule. Hein,
Ouais.
voilà, hein, c'est bien pour ça qu'on vient récupérer les ceintures à Clash of Champions pour que tout ça se termine là au niveau de vos bouffonneries. Y2J il s'en va énervé en ajoutant tout le monde sur la liste. Je dis quoi, c'est sur la liste toi aussi. Et là, dans son dos, il y a Sami Zayn qui débarque et qui vient le molester. Les coups pleuvent sur Jericho, il ramène Y2J dans le ring, là tout le monde se marave, coupure pub, et du coup on se retrouve avec un match 5 contre 5. Donc d'un côté les gentils avec la Team Soft, Sami Zayn
Et le New Day.
et le New Day, effectivement le New Day était là. Et de l'autre côté on a Anderson, Gallows, les
Shining Stars.
Shining Stars de Puerto Rico et l'Ali Y2J. Bon bah c'est pas un match fantastique. Même un gros, gros attaque de Big Cass à un moment donné qui fait le ménage hein, dans le ring et autour du ring. Il faudra un énorme Bigfoot en traître hein, de Gallows pour le calmer depuis le tablier du ring, hein, comme ça il finira en bas. Et donc victoire des gentils avec un Hell of a Kick de Sami Zayn et un Boom Shakalanka sur Epico,
C'est ça.
sachant que le Hell of a Kick était destiné à la base à Y2J, qu'il a
Est-ce qu'il...
esquivé. Et c'est le Shining Star qui s'est mangé le coup de pied. Voilà. Alors, Y2J qui se mêle aux histoires de la tag team.
Ouais, alors c'est les tag teams qui se mêlent aux histoires de Y2J.
On peut le mettre comme ça. Ça...
Et c'est bien dommage.
Ouais, parce que ça démarre très très fort.
C'est
Hein,
ça,
avec
ouais.
un Jericho en feu, encore une fois.
Ouais. C'est ce que je m'étais noté, c'est qu'on a alterné l'excellent et le catastrophique. Et c'est tout le segment pendant, parce que ça, je pense que la promo plus le match et tout, on a bien dû prendre 20 minutes de notre temps là. C'était 20 minutes en chute libre totale. Enfin, c'était de pire en pire. Donc ouais, c'est dommage. Et inutile. Enfin, on va pas commenter sur une sorte de gros bordel de 5 contre 5 et la fameuse promo des équipes qui arrivent une à une. Ça n'a pas grand intérêt, mais je me contenterai juste de rappeler la phrase que tu as citée et qui pour moi est juste terrible et très révélatrice. C'est quand le New Day arrive et qu'on leur demande pourquoi ils sont. Enfin, on leur demande même pas pourquoi ils sont là. Biggie qui dit spontanément de lui-même, bah parce qu'on n'a rien d'autre à foutre. Bah voilà, je trouve que c'est très révélateur de l'état de la scène tag team à Raw et de la rivalité qui c'est vraiment pour que j'arrive à ne pas aimer quelque chose, il faut y aller et je trouve que vraiment ils ont complètement gâché ce qu'aurait pu être cette rivalité entre le New Day et Gallows et Anderson et ça devient tellement critique moi je trouve comme parce que même le public ne réagissait pas beaucoup je trouve ça devient critique que je suis presque à souhaiter que le New Day finisse son règne et passe à autre chose peut-être parce que ça commence à tourner en rond et cette rivalité leur fait plus de mal qu'autre chose je pense donc voilà c'était pas bon et ils ont gâché je trouve mon moment avec Chris Jericho où moi j'étais mort de rire du début à la fin.
Ouais, un
Donc
grand
voilà.
Chris Jericho encore une fois et puis effectivement au niveau tag team c'est très très léger et puis bon on a quand même un Sami Zayn revanchard mais assez effacé dans le match
Bah oui,
il s'impose pas
ça
trop hein, au
passe en
niveau de tout
second
ça
plan, quoi. Ouais.
Donc pas ouais on va pas une gestion exceptionnelle mais bon Jericho est tellement bon.
Voilà, c'est jeter tout ça comme ça. On va pas me faire croire qu'en 3 heures d'émission, ils n'avaient pas le temps de faire mieux que de faire ça, quoi, en fait. Donc, et puis ça me donne pas spécialement envie de voir le match par équipe de dimanche, quoi. C'est surtout ça le problème. Et ça me donne pas plus envie de voir Chris Jericho, Sami Zayn, alors que pourtant à la base j'étais plutôt chaud pour ce match. Mais là, Sami Zayn n'apparaît pas spécialement en valeur. Enfin, voilà, j'ai pas. Je sais pas, ça m'a pas boosté pour les deux matchs, donc au final l'objectif n'est même pas rempli et ça a pris beaucoup de temps et c'était mou, quoi.
Ou du moins, ouais, ce match n'avait rien d'exceptionnel. Voilà, bon, pas grand-chose de plus à ajouter là-dessus, une petite déception. Bon, on va passer à la suite. Et là, on est dans le moment historique de
Ah
Raw.
oui.
On retrouve Mick Foley dans le ring, toujours lui, qui va nous présenter pour la première fois la division Cruiserweight qui revient à Raw cette semaine. Après l'énormissime Cruiserweight classique
Oui, il
sur
faut
le
que vous
network,
regardiez.
voilà, jetez-vous dessus, il y a que du bon, il y a très très peu de choses à acheter. Et donc ce soir, alors il botche complètement son discours, hein, il nous dit que
C'est la cata.
c'est pas la taille du chien qui est importante dans le combat, c'est la taille du combat dans le chien, mais il n'arrive pas à sortir la phrase. Il a bien du mal hein, à sortir sa promo, mais
Ah,
au
c'est...
final, il n'y a rien de vraiment transcendant à retenir. Hein. Il va juste nous dire que voilà, c'est pas la taille qui compte. Vous allez voir le spectacle avec les Cruiserweight. Et donc ce soir, bah, on a le droit à un match Un Fatal Four Way à 4 entre Brian Kendrick, le vétéran, qui avait une belle carrière déjà à la WWE. Hein, il avait été longtemps. Il tenait le record du championnat par équipe avec Paul London avant que le New Day ne fasse tomber le record. On a Rich Swann, un pilier aussi hein, du milieu indépendant. Cédric Alexander et Grand Metalik, le Luchador. Cédric Alexander aussi, hein, c'est un des piliers du circuit indépendant, était là, ROH, l'Evolve. Des High Flyers, puis un Brian Kendrick qui va jouer le heel hein, ce soir.
Oui, c'est ça.
Alors le match est phénoménal, hein, ça saute dans tous les sens. Le public est un peu perplexe à l'arrivée des catcheurs, hein, parce qu'on sent bien qu'en fait ils les connaissent pas. Et puis donc on a Rich Swann, c'est un peu triste l'arrivée de Rich Swann qui danse et
C'est
qui fiche
dommage,
le feu à la
ouais.
foule. Mais bon, en même temps pour eux, ça doit être la première fois qu'ils sont dans des salles aussi grandes. Donc il y a du bon, il y a du mauvais pour eux, je pense dans l'histoire. Mais bon, ils finissent quand même par emporter l'appui du public, hein, parce que le match est quand même spectaculaire à tous les niveaux. Je vais pas rentrer dans le détail du match, je vais juste vous
Il s'est
raconter
passé beaucoup trop de
voilà.
choses, je pense. Oui.
C'est ça, hein, parce que ça va un peu dans tous les sens, même si c'était loin d'être brouillon, loin d'être le spot fest, hein, c'était quand même carré, assez facile à suivre. Mais bon, sur la fin du match, hein, le déroulé final, c'est Rich Swann, pardon, qui après avoir assommé Cédric Alexander avec un coup de pied circulaire, il va porter son standing 450 sur Alexander. Donc ça, c'est-à-dire qu'il saute sur ses pieds, il prend de l'élan et il fait un 450, mais depuis le sol. Mais il est éjecté du ring par Kendrick, qui porte sa soumission pardon, sur Alexander. Il y a Grand Metalik, le Luchador, qui vient casser la prise. Il tente son Metalik Driver, hein, qui est un peu comme un Michinoku Driver, sur Alexander. Mais Alexander réussit à le contrer. Il réussit à lui placer son impressionnant Backbuster. Il n'y a que des moves impressionnants, hein, vous noterez. Donc le Backbuster, c'est comme le Gutbuster de... Comment il s'appelle l'ami des Prime Plane Player, là.
Ah, Darren Young.
Darren Young, voilà, sauf que c'est dans le dos. Et
Ah oui, ça c'était balèze, ça.
ah, ça c'est impressionnant. Mais bon, Brian Kendrick revient, il chope Alexander, il le place dans sa prise de soumission, qui est un peu comme un crossface, mais sans les jambes, ça ressemble un peu au backstand mount. Mais il n'y a plus personne pour casser la prise, hein, tout le monde est KO. Cédric Alexander est obligé d'abandonner, obligé de taper. Donc victoire de Brian Kendrick après un match spectaculaire. Et donc Brian Kendrick, il décroche un title shot à Clash of Champions, match de championnat, contre l'invisible TJ Perkins, donc qui n'était pas présent ce soir, le nouveau champion Cruiserweight,
Non, ça c'est incompréhensible pour
voilà,
moi.
qui a
Mais, ouais.
été qui a été couronné à la fin du classique Cruiserweight classique sur le network. Voilà, alors qu'est-ce que tu as pensé du début de ces Cruiserweight?
Suis très très mitigé sur ses débuts. Enfin, je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire. Bon, déjà d'un point de vue purement du spectacle et de l'émission en tant que telle, j'ai trouvé bon, le match excellent. Vraiment, c'était un très très beau Fatal Four Way. Aucun temps mort, des spots dans tous les sens. En effet, impossible de faire quasiment le play-by-play là, du match pour nos auditeurs, parce qu'il s'est passé tellement de choses que ça prendrait quasiment toute la durée du match, qui durait un bon quart d'heure, je crois. Mais ouais, enfin, il y avait des spots de tarés. Moi, je suis archi fan du sort de suicide dive là de Metalik quand il prend appui sur la deuxième corde. Je trouve ça esthétiquement et athlétiquement incroyable. Ça c'est magnifique. Puis alors le 450 splash, standing 450 splash de Rich Swann aussi. Alors là, moi, il m'a scotché. Enfin bref,
Impressionnant.
il y a tout un tas de moves qui font que tu ne peux qu'être complètement ébahi devant la prestation des quatre. Et donc c'était de ce point de vue-là une formidable pub pour cette nouvelle division. Les puristes seront peut-être un peu déçus de certaines choses, du rythme du match. C'est vrai que c'était peut-être encore un peu moins rapide ou moins technique que ce qu'on pouvait voir au CWC Championship là sur le network. Après, il faut aussi comprendre que bon, y a des choses qui ne marcheront pas avec un public plus large. Donc, j'ai trouvé qu'ils avaient plutôt bien adapté leur catch à ce niveau-là, parce qu'il y a, y a pas mal d'enchaînements qui peuvent paraître un peu trop chorégraphiés, je pense, pour le grand public, et, des enchaînements au sol qui du coup, n'ont pas été répétés. Donc, je trouvais que c'était plutôt pas mal, et c'était bien adapté. C'était vraiment un excellent match de publicité pour la division. Après, il y a des choses qui sont absolument dingues pour moi, et la première étant la plus grosse, c'est que le champion ne soit pas présent.
C'est ça.
Alors, donc ça, je trouve ça inexcusable et incompréhensible. Je ne comprends pas comment on peut vendre à un public qui ne connaît pas la division. On lui fait découvrir pour la première fois, parce qu'il faut. Il faut pas croire, il faut arrêter de croire que tout le monde suit ces mecs-là depuis des années. Ce sont des inconnus pour le grand public. Il faut se mettre ça dans la tête, même si ça peut ne pas plaire. Ce sont des inconnus. Comment est-ce qu'on peut vendre un match de championnat sans présenter la ceinture, le champion, expliquer comment est-ce que cette ceinture a été gagnée, tout, enfin, rien. Je trouve que c'est dingue. Ça, c'est une grosse erreur, et ça c'est dommage, parce que ça les pénalise vraiment lourdement avant d'arriver à Clash of Champions, je pense. Ils seront sauvés parce que le public de Clash of Champions sera probablement un peu plus connaisseur que ceux des Weekly, mais c'est vraiment un gros point noir pour moi.
C'est surtout l'arrivée qui risque d'être triste à
Bah
Clash
oui.
of Champions parce que voilà, les gens les connaissent pas trop. Alors du coup, ils connaîtront Brian Kendrick. Bon, au final, c'est celui que les gens connaissent déjà quelque
Oui.
part. Mais par contre, pour le champion,
TJ Perkins,
s'il n'y a
ouais.
pas Triple H qui vient le présenter devant tout le monde, quand il va débarquer, ça va être
C'est peut-être
triste
ce qui
pour
va
lui,
se
hein.
passer, peut-être ce qui va se passer, mais
Peut-être.
bon, à la limite, même si c'est ce qui se passe, c'est dommage, parce que c'est Triple H du coup qui vient. Enfin, ça,
Oui.
le public va popper pour la musique de Triple H, pour Triple
Ouais.
H, machin, c'est bon, c'est pas mal. Et puis, deuxième chose, moi je trouvais que l'introduction de Mick Foley était catastrophique.
Ouais.
Mais c'est, on peut tout pardonner, on peut dire oui, c'est pas grave, mais je trouve que c'est vraiment, enfin, il faut marquer le coup, et c'est dommage d'avoir gratté le début, parce que déjà, il a pas besoin, enfin, il a pas besoin de fiches quand même pour présenter quatre catcheurs.
Ouais.
Le mec arrive avec ses fiches.
Peut-être qu'on surécestime un peu les capacités de Mick Foley, hein, parce
Ouais, je
qu'il a,
sais
il a quand même,
pas.
mais il a bien morflé lui tout au long de sa
Ah
carrière.
putain, ouais.
Et
Bon, ouais. Mais
voilà.
en tout cas, moi, je trouve que d'un point de vue purement visuel, tu vois, moi, je me place. Moi, je les connais pas trop en plus, hein. Je me place à la place d'un spectateur lambda. Je vois Mick Foley qui arrive avec ses fiches, qui bafouille, qui me présente des catcheurs qui sont petits, parce qu'il dit, bah voilà, ils sont peut-être petits, mais ils sont très forts. Non, ça sert à rien de dire qu'ils sont petits. C'est dit, je vais vous présenter des excellents catcheurs, voilà machin, voilà machin, voilà machin. Pas besoin de dire, attention, il y a quatre petits qui arrivent, préparez-vous.
Ouais, ah, il faut définir peut-être
Ouais, je trouve ça
la
dommage.
division cruiserweight, hein, en expliquant que c'est pour les
Moi, je
catcheurs
trouve ça
plus
dommage.
légers,
Et
parce
puis, ouais.
qu'ils sont tellement impressionnants qu'ils pourraient se placer très bien
Parce qu'au final,
un peu plus haut dans la carte, hein,
je
quelque
trouve que
part, mais bon.
ça dessert un peu le premier accueil, parce que
Mais
tu
c'est
vois,
trop brouillon, quoi.
ouais, Mick Foley qui bafouille et qui te présente quatre petits gars qui vont arriver que vous connaissez pas, ça fait vraiment genre, bon bah voilà, Rich Swann, tu vois le petit mec qui danse, t'as l'impression de voir un Kofi Kingston dansant. Enfin, t'es obligé de jouer au jeu des comparaisons avec les quatre, parce que ils sont présentés de façon tellement un peu random que c'est un peu dommage. Et puis, troisième point, et après je termine, mais c'est peut-être le placement dans le show. Pour moi, c'était un placement presque suicidaire, parce que ils arrivent en milieu de troisième heure. C'est terrible pour eux. Enfin, genre le, moi, je, de toute façon, je pense que Raw c'est trop long, et c'est le principal défaut de cette émission. Mais arriver aussi tard dans l'émission, le public a déjà bien bouffé, attend en plus avec impatience, je pense, le Steel Cage match derrière. C'est dur comme spot, c'est vraiment dur. Et peut-être que des petites interviews backstage ou un match un peu plus tôt dans l'émission auraient peut-être été plus judicieux que là. Mais bon, voilà.
Ouais,
Moi,
ouais, ouais.
donc. Voilà. Dans l'ensemble, je reste très excité, parce que voilà, moi j'ai bien aimé le tournoi et tout, mais je me mets à la place du plus grand public. Je trouve que c'est une occasion un peu manquée, et bon, il va falloir cravacher quand même pour que ça s'installe, et que ça ait du succès.
Bah après, c'est leur in-ring, hein, qui fait la
Ah,
différence,
c'est
hein.
ça qui va faire la diff, de toute façon,
Donc,
c'est
parce que je
sûr.
sais pas s'ils vont développer des storylines
Non, je pense que ça passera par le
énormes.
ring, hein. Ouais.
Mais bon, c'est voilà, ils ont bien fait un peu le mix entre le catch classique et le catch cruiserweight là, sur cette semaine-là. Je pense qu'il faut rester un peu dans cette lignée-là pour que le grand
Oui.
public adhère complètement, parce que s'ils partent vraiment dans du catch façon indie, façon,
Non, non, ça fonctionnera pas.
ça
Enfin, ça.
fonctionnera pas, ça va choquer un peu les gens, ça va les faire sortir des matchs. Donc il faut garder un petit peu ce côté un peu grand public. Voilà, mais alors il faut pas le placer là, effectivement, dans la carte. Hein. C'est
Moi, je pense
pour
que
en
ouais, c'est trop
ouverture de
tard.
show, hein, comme à l'ancienne à la
Ça aurait pu
WCW.
être l'ouverture du show, pourquoi pas?
Ouais, clairement, clairement. Là, pour un truc historique qui nous tease depuis des semaines, effectivement, ça a été un petit peu maladroit, voire bâclé, hein, on peut le dire
Bah ouais,
bâclé.
franchement, ouais, on peut le dire.
Voilà, bah une, voilà, une, alors c'est quelque part une déception, mais après
Mais
reste
bon,
que
ça reste encourageant parce qu'on est
voilà.
super content de voir la division arriver. Et puis,
Ouais, et puis le match était quand même très très
ouais,
bon, donc au
le match vaut le
final.
détour.
Puis on aura sûrement un super match encore à Clash of Champions
Oui, je pense.
entre Perkins et
Ce sera
Kendrick.
finalement la meilleure pub pour Perkins.
C'est ça, c'est ça. Voilà, bon, la suite, on va revenir sur ce qui se passe autour de la ceinture universelle. Plutôt dans l'émission, on a Seth Rollins qui rentre dans le bureau de Stephanie McMahon et ben, il lui demande pourquoi. Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous êtes aussi méchant? Donc, elle en sait rien, hein, Stephanie McMahon, mais bon, comme elle lui court sur le haricot, si elle doit donner une explication, peut-être parce que tout simplement c'est qu'il a perdu le titre WWE au profit, pardon, de SmackDown Live. C'est peut-être aussi parce que Triple H, il en a marre d'être embarrassé par les agissements de Rollins, un hein, Rollins qu'il avait été lui-même chercher hein, le King of Kings dans The Shield hein, pour en faire
Son
son
champion.
champion. Donc voilà. Donc c'est peut-être pour ça, hein, peut-être parce que t'es qu'un gros loser au final, Seth Rollins, et que t'as gâché tous les espoirs qu'on avait placés en toi. Donc Rollins, lui, ben, il explique qu'il faut faire quand même attention parce que lui, il les connaît par cœur. Il connaît toutes leurs tactiques. Il pourra anticiper tous les petits coups en traître qu'il pourrait faire. Donc il risque de devenir leur pire cauchemar. Et que quand il sera de nouveau l'Universal Champion, enfin de nouveau, quand il sera l'Universal Champion, ils pourront peut-être pas le contrôler. Ce sera peut-être le premier champion qu'ils pourront pas contrôler depuis longtemps. Maintenant, Stéphanie, elle a une totale confiance en Kevin Owens pour être le bon choix, hein, pour être le champion, pour diriger Raw face à SmackDown Live et remplacer Seth Rollins. Seth Rollins. Donc Rollins il ajoute rapidement qu'elle a changé et elle a changé apparemment depuis le retour de son frère Shane McMahon.
C'est ça.
Et on entend quelqu'un dans le public crier Brother Nero. Encore encore une
Décidément.
référence, un hein, petit parasitage par Broken Matt Hardy. Et donc ben, un peu plus tard dans l'émission, hein, enfin carrément à la fin de l'émission puisque c'est le main event.
C'est le main event.
On a ce match entre Roman Reigns et Kevin Owens. Donc dans une cage. Hein, c'est peu ou prou à peu près le même match qu'on a eu la semaine dernière, mais avec une cage autour. Hein, c'est toujours du très solide, du très violent. Roman Reigns tout en puissance. Puis Kevin Owens hein, aussi qui rend coup pour coup. Voilà, toujours aussi des moves très puissants de la part de Kevin Owens avec des super kicks toujours placés out of nowhere. Bah Roman Reigns s'est booké très très fort hein, parce qu'il arrive à survivre à une pop-up power bomb quand même.
Oui, ça c'est pas tous les jours.
C'est pas tous les jours qu'il y a quelqu'un qui se relève de ça. Je crois que même John Cena avait du
Non.
mal à s'en sortir.
Moi j'ai cru retomber à ce moment-là.
Ouais, pareil. Mais bon, alors ça se termine. Si vous voulez, les deux sont en train d'escalader côte à côte la cage. Kevin Owens, il prend la tête de Roman Reigns pour la frapper contre la grille en lui expliquant bah, c'est moi the guy, hein, il gueule dessus férocement. Mais Roman Reigns, il réussit à s'en sortir en sautant et en plaçant un Superman Punch à Kevin Owens. Tous les deux s'écroulent au sol. Et là, bah, ils vont tous les deux essayer de s'échapper. Roman Reigns, il va passer par en haut de la cage. Et Kevin Owens, il va ramper jusqu'à la porte. Donc les deux sont coude à coude et c'est quand même Roman Reigns qui finit par sauter avant que Kevin Owens ait réussi à atteindre le sol, à sortir de la cage. Roman Reigns qui est un poil plus rapide donc que Kevin Owens et qui gagne le match. Il n'a pas le temps de fêter, hein. Bon, il est en sale état déjà. Et voilà que Rousseff débarque à nouveau. Donc la cage, elle aura servi à rien. Hein. Il y aura quand même une interférence en fin de match. Il est bien accueilli par Roman Reigns qui arrive à le maîtriser. Il le tabasse, il l'envoie contre l'escalier du ring, il commence à le tabasser contre l'escalier du ring, et il est juste à côté de la porte de la cage, et là Kevin Owens il en profite, il ouvre violemment la porte qui vient percuter le visage de Roman Reigns, le beau Roman qui s'écroule, il se relèvera pas de ça, le Bulgare et le Canadien ils vont ensuite le ramener dans la cage. Ils vont fermer la cage avec une chaîne et un cadenas, et ils vont commencer à passer à tabac le Samoan. Rousseff finit par porter l'accolade, hein, évidemment. Mais voilà, le héros débarque, Seth Rollins débarque pour sauver son ancien rival, mais aussi son ancien compagnon du Shield. Il escalade la cage, il assomme Kevin Owens, puis Rousseff qui tente de le repousser, hein, en escaladant aussi la cage de leur côté. Ensuite, il est en haut de la cage et tel un Eddie Guerrero, il nous fait un crossbody du haut de la cage sur les deux bourreaux de Roman Reigns, sur le Canadien et le Bulgare. Magnifique image, Seth Rollins qui sauve Roman Reigns in extremis et ça se termine sur les trois, hein, qui sont, enfin les quatre plutôt, qui sont
Oui,
tous à terre dans le
un peu
ring,
chaos,
tout le monde au bout du rouleau. Et voilà, c'est la dernière étape du face turn le plus laborieux de l'histoire de la WWE.
ouais.
Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ce main event?
ouais, j'ai beaucoup aimé, mais est-ce que c'est vraiment officiellement encore un face turn ou pas encore?
Ah bah, il vient sauver Roman Reigns en tapant les méchants. Roman Reigns est censé être son ennemi.
J'avais
Là, il
l'impression
n'est pas
qu'il,
gentil.
en
Merde,
fait,
quoi.
j'avais l'impression qu'il venait, mais son but premier n'était pas de sauver Roman Reigns, mais plutôt de se payer Kevin Owens.
Ouais.
Et il se trouve que, bon, bah, dans le process, il sauve Roman Reigns, mais bon, de toute façon, on va y arriver, hein, au
Ouais,
face turn, c'est sûr. Mais je sais pas,
j'espère.
j'avais l'impression que c'était pas encore non plus complètement explicite. On s'en approchait bien, mais bon, oui. Enfin, de toute façon, on y va tout droit, c'est sûr. Et puis, il y a qu'à voir les réactions qu'il a en plus, Seth Rollins, pour voir que de toute manière, ça va s'imposer assez vite. Bah, écoute, sur le main event, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai beaucoup aimé ce match en cage. Je trouvais que c'était plutôt un bon match en cage, qui a bien utilisé la stipulation. Parce qu'au final, il n'y a pas eu d'intervention extérieure pendant le match. Ça n'a été qu'après, quand Roman Reigns, justement, était hors de la cage. Dès qu'il a été hors de la cage, Rousseff est arrivé pour le maltraiter. Et puis après, ils se sont même servis de la cage après coup pour l'emprisonner. Donc j'ai trouvé que, pour une fois, la cage avait eu un rôle pas trop, plutôt bien utilisé. Le match était bon. Le résultat me va. Comme pour Rollins Rousseff, la WWE avait malheureusement booké un match dans lequel aucun des deux ne pouvait vraiment perdre de façon décisive. Donc du coup, le fait d'avoir une sorte de double échappatoire avec une victoire à l'extrême limite de Roman Reigns me va pas trop mal. J'aurais comme critique quand même le fait que pendant tout le match, bah déjà s'échapper de la cage, c'est pas forcément très face, mais pendant tout le match, Roman Reigns n'a fait que ramener Owens dans le ring, ramener Owens dans le ring. Et puis au final, d'un seul coup, il décide qu'il va s'échapper alors qu'il est complètement KO. Et en plus, il décide de s'échapper par-dessus, ce qui est le plus compliqué. Donc j'ai pas trouvé ça très très logique, mais bon,
Ouais, le
c'est.
fini, l'exécution du
L'exécution du
finish
finish est un
n'était
peu bancale.
pas, voilà, un peu bancale. L'idée est bonne, mais
Voilà
bon, après,
l'idée.
c'est comme il y a le tabassage en règle qui se passe juste après,
Oui, on comprend mieux forcément.
puis on, voilà,
Ça a un sens
ça
in
passe dans
fine.
le,
Voilà. Donc ça passe, ça passe.
voilà.
C'est pour une petite critique, pour pas dire non plus que j'ai tout aimé dans ce match.
Voilà.
Mais ouais. Et puis bah sinon, sur le petit segment que tu avais mentionné juste avant, avec moi, j'ai bien aimé le petit échange entre Rollins et Stéphanie, parce que du coup ça clarifie un petit peu. Enfin, on commence à voir Stéphanie dévoiler un peu ses cartes, je pense, par le quand elle dit ce que penserait potentiellement son mari. On sent qu'elle commence petit à petit à dévoiler son jeu. Même si je trouve que, une fois, c'est un peu comme le même grief que j'avais en intro de show. Je trouve que il pourrait être quand même un peu plus explicite et un peu plus clair quand ils disent les choses, parce qu'il faut pas nous prendre pour des cons. Genre Triple H et Stéphanie ne communiquent pas depuis 3 semaines. Genre c'est pas du tout ce que pense son mari. Bon, peut-être pas non plus nous prendre pour des flans là, mais En tout cas, la justification est pas trop mal et je trouve que voilà, la feute commence à se dérouler, à se dévoiler. Donc c'est pas mal.
Alors, après, moi, sur ce segment-là, ce qui me dérange, c'est que t'as Seth Rollins, bon, on sent qu'il va passer face, mais là, il est quand même encore en train de négocier pour voir s'il peut pas être le plus gros bâtard de l'émission encore un petit peu,
C'est pour
si
ça que je dis que c'est
vraiment.
pas complètement officiel.
Ouais, mais après l'intervention de ce soir, je pense qu'ils seront obligés de finaliser là-dessus. Mais bon, ça vient peut-être aussi du fait qu'ils veulent pas toujours délimiter face et heel, la vieille histoire. Mais quand même, jusqu'au bout, il essaye d'être le pire bâtard de l'émission. Et si vraiment il n'a pas le choix, bah il sera le gentil. Mais c'est vraiment qu'on lui aura pas donné le choix, quoi. Donc ça va être après un peu difficile pour en faire un
Oui, oui,
babyface 100%. Mais bon, avec son charisme, son moveset, ça devrait
oui. Ça
passer. Mais
devrait aller tout seul.
voilà, je pense quand même que c'est à ce niveau, c'est un face turn qui traîne en longueur. On a rarement vu ça
Oui, ça par contre,
la
je suis
vie.
d'accord que ça traîne un peu en longueur. C'est pour ça que je dis, tu vois, je pense que là, il sauve Roman Reigns, mais un peu malgré lui, parce que je pense que son premier truc, c'était qu'il venait pour déglinguer Kevin Owens, quoi. Mais.
Il sera gentil, mais ça sera un concours de circonstances. Voilà,
On a fait
ben,
le tour.
on a fait le tour, hein, de ce Raw. On va passer au mot de la fin. Donc un top, un flop et une note.
Eh ben c'est parti. Donc moi je vais mettre la note de. J'ai réfléchi, j'avais dit 3, 3,25. Je pense que je vais mettre 3,25. 3,25 sur 5. Parce que c'était quand même un go home show assez solide. Voilà, moi dans l'ensemble, il y a eu pas mal de négatifs à droite à gauche. L'émission est trop longue de manière générale et remplie de choses qui ne m'intéressent pas. Mais bon, ça, c'est pas propre à celle-ci en particulier. Donc c'est un
Ouais, c'est
critique.
toujours le même grief,
Voilà,
hein,
c'est
ça,
une
la
critique
longueur du
plutôt
show.
générale. Sur le show en tant que tel, voilà, je pense que ils ont quand même coché pas mal de cases pour dimanche au niveau du titre suprême, au niveau des filles, au niveau de bon les tag teams, c'était la merde. Bon, bref, enfin, on va pas tout redérouler, mais voilà, je trouve que pour un go home show, c'était quand même pas trop mal et dans l'ensemble relativement solide. Mon top et mon flop, en fait, ils vont un peu ensemble parce que mon top, c'est Chris Jericho.
Ouais.
Et mon flop, c'est les tag teams. Enfin, c'était le segment pris dans son ensemble qui fait mon top et mon flop où on arrive à passer d'un extrême à l'autre. Mon top, voilà, Chris Jericho est au sommet de son art. Toutes les semaines, il me fait rire comme pas possible et j'adore. Et puis bah là, bon, enfin les tag teams et l'aveu d'impuissance exprimé par la phrase de Biggie, pour moi, veut tout dire sur le niveau d'écriture qu'on leur accorde en ce moment.
Exactement. Ouais, bah moi je vais te suivre au niveau de la note, hein, 3,25, ça me paraît bon. Ils perdent beaucoup de points à cause de mon flop, le flop qui est l'absence de TJ Perkins.
Ah ouais, ça, c'est terrible.
On était normalement sur un Raw historique et voilà,
N'a pas le champion, c'est
on
pas
n'a pas de
possible.
champion. En plus, il a une belle gueule ce champion, c'est un beau
Non,
champion.
mais c'est incompréhensible, franchement, je ne comprends pas.
Mais ouais, je sais pas, peut-être parce qu'ils voulaient pas ramener Triple H. Enfin, je ne. Voilà, on se posera toujours la question de savoir
Ah
pourquoi ils
non,
n'ont pas
c'est
fait quelque
surtout
chose
pas
après.
ramener Triple H, non.
Voilà, donc ça c'est quand même ce qui ternit un peu le show. Puis pour le top, qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour le top? Il y a quand même pas mal de trucs bien. Je crois que je me joindrai à toi sur Chris Jericho parce que c'est quand même. Ça va être toutes les semaines Chris Jericho qui sera dans le top quand même.
Non mais c'est
C'est
fou quand
trop
même cette
fort.
capacité qu'il arrive à trouver des petites variantes.
Non, non, il est phénoménal. Hein. En plus, il raconte n'importe quoi à chaque fois, ça n'a aucun sens ce qu'il raconte.
Et puis
Mais
on aime le détester, enfin, c'est
c'est
vraiment
ça.
génial. Il arrive à faire l'unanimité dans les réactions du public alors que pourtant c'est de notoriété commune que tout le monde apprécie ce qu'il fait, quoi.
Ouais.
Donc c'est fort.
Puis voilà, moi je suis quand même impatient de voir ce qui va se passer face à Sami Zayn. Ça peut être un match très intéressant.
Oui.
Voilà, ben voilà ce qu'il en était de ce Raw historique avec l'arrivée des Cruiserweight. Hein, je le répète. Voilà, bah écoutez, on va se quitter tout doucement. Je vous rappelle qu'on peut nous écouter sur YouTube. hein, sur la chaîne des Cahiers du Catch. Vous pouvez aussi nous écouter sur iTunes, sur PodCloud. Pensez à vous abonner, pensez à cliquer sur le petit lien à tes abonnements pour recevoir l'alerte dès qu'il y a un show qui est, enfin dès qu'il y a une émission qui est éditée, qui est en ligne. Voilà, j'écoute Giscal, je te remercie pour ta
Écoute,
participation.
merci à toi, ça m'a fait plaisir de changer d'émission un peu.
Voilà, exactement, de temps en temps, ça fait du bien. Et puis voilà, bah les amis, on se retrouve la semaine prochaine, et puis on vous souhaite une belle semaine pleine de catch. Ciao, ciao!
À bientôt tout le monde.